Merci à vous d'être là ce soir. On va peut-être commencer, je pense. Voilà. Donc merci à vous d'être venus pour réfléchir ensemble, pour discuter sur le soin dans tous ses états. Qu'est-ce qui nous a amené à réfléchir là-dessus ? C'est nous nous soucions de la santé, autant que nous nous questionnons sur la vie et la mort. Mais il se trouve que nous parlons plus de la santé que de la mort, surtout dans notre société contemporaine. L'économie, l'organisation de la cité suppose la prise en charge de la santé, de l'éducation à la santé et du soin porté à l'autre, à certains autres du moins, réputés plus faibles, plus âgés, plus malades que tout un chacun. Toute société riche et démocratique se doit d'offrir à chacun un droit à la santé, droit à vrai dire bien étrange. Il en découle un système économique et une gestion, comme disent les décideurs et les administrateurs, qui concernent l'État et son mode d'organisation sociale et politique. Mais en fait, savons-nous comment entendre ce terme de santé ? Et comment la personne traverse la vie qui est la sienne, toute sa vie jusqu'à la mort, en prenant soin de sa santé ? N'est-ce pas cette même santé, à moins qu'il y ait un grave malentendu à ce propos, que les publicistes nous vendant les produits de consommation destinés à l'entretenir ou de manière thaumaturgique à la restaurer, à la produire? Voilà que la santé est devenue un objet de consommation, chose extérieure à la personne, et qu'elle est soumise à des modèles organisés et à raisonner. Moyennant quoi, il se pourrait que d'autres que nous s'arrogent le droit de savoir mieux que nous les comportements que nous devrions adopter. Donc c'est un peu le thème de notre réflexion. Nous allons donc réfléchir à trois voix. Une philosophe un peu poète, voilà, Ingrid Auriol, une psychologue psychanalyste, Dolores Albarracin, et moi-même qui suis infirmière libérale à domicile donc. Nous allons essayer de travailler, de réfléchir ensemble à propos de la personne, du concept de santé, du concept peut-être de guérison, s'il existe, et pour moi-même de la temporalité dans le soin. Voilà, donc je vais donner la parole à Dolores, et je laisse Dolores se présenter, puis Ingrid qui va se présenter aussi après.
Merci beaucoup et de cette invitation qui me fait bien plaisir. Et voilà, je suis psychanalyste, docteur en psychologie, et je suis enseignant-chercheur à l'université de Poitiers. Et donc je m'intéresse aux questions de médecine en général, et parmi ces questions, je m'intéresse aux recherches, au discours de la recherche en santé mentale. Et c'est et notamment effectivement à l'écart entre le discours de la recherche et la réalité des pratiques de soins en psychiatrie, en santé mentale. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler, de vous parler ce soir. Puisque, bon, ça a été dit, souligné par Brigitte, on le sait tous que dans nos sociétés occidentales, la santé est un objet privilégié de discours. Parce que les progrès de la médecine en matière de prévention, de dépistage, de traitement, entretiennent, à juste titre d'ailleurs, enfin, hein, mais en tout cas, entretiennent cette idée, cette illusion parfois de pouvoir vaincre la mort et la folie, qui est un peu le rêve poursuivi par tous et par la médecine depuis l'Antiquité, hein, vaincre la mort et la folie. Et comme ça a été aussi souligné, ce rêve-là est aussi un enjeu économique sans précédent, puisque évidemment la santé est devenue aussi un véritable marché à échelle mondiale. Donc une certaine psychiatrie contemporaine, en tout cas en ce qui concerne la recherche, n'échappe pas à cette règle, hein, du marché économique. La psychiatrie, pour assurer sa légitimité, elle fonctionne comme toute autre spécialité de la médecine, c'est-à-dire elle repose sur des diagnostics, de troubles mentaux, qui lui assurent donc sa reconnaissance scientifique. Et évidemment, cela entraîne quelques travers, en tout cas dans le modèle contemporain qui est dominant, dont je vais vous parler. C'est-à-dire que jusqu'aux années 50, à peu près, évidemment, c'est très général ce que je dis, mais un peu simpliste, mais on peut dire que jusqu'aux années 50, le diagnostic de troubles mentaux en psychiatrie était construit surtout à partir des discours des patients, des discours de patients et des comportements, évidemment, qui permettaient, ces diagnostics permettaient d'établir une frontière, en quelque sorte, à peu près claire, évidemment, tout est relatif dans ce domaine, entre ce qu'on considère la normalité et la pathologie. C'est-à-dire, on essayait de raisonner en termes d'état normal d'un côté et état jugé pathologique. Évidemment, ce modèle classificatoire de diagnostic avait ses limitations, ses dérives, etc. Mais ce modèle en psychiatrie reposait sur l'idée que seuls les états pathologiques pouvaient être traités ou devaient être traités. C'est-à-dire qu'on considérait que finalement, il y avait seulement certains troubles mentaux plutôt graves qui devaient être traités. Et à partir des années 50, on connaît une évolution vraiment considérable qui a beaucoup changé la donne dans le domaine de la santé mentale. Et vous avez certainement entendu parler de ce manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux qu'on appelle le DSM, qui est donc un manuel qui a été élaboré aux États-Unis à partir des années 50, on a plusieurs versions, et qui propose donc une liste très très longue de troubles mentaux qui aide donc les médecins à poser des diagnostics et aussi à attester de leurs actes auprès de l'assurance maladie. Donc à partir des années 50, on a connu plusieurs versions de ce manuel. Et qu'est-ce qu'on peut constater ? Que constatent les chercheurs qui s'intéressent comme moi à ces questions ? C'est qu'au fil des versions du DSM, donc de ce manuel diagnostique, on a une multiplication spectaculaire de nouveaux troubles mentaux qui est assez inquiétante, évidemment, et qui repose sur deux aspects. D'un côté, ce qu'on appelle l'abaissement des seuils de diagnostic. L'abaissement des seuils de diagnostic, c'est évidemment, au fil des versions, revoir à la baisse le seuil à partir duquel on considère qu'il y a un problème et qu'il faut le traiter. Ça peut être, par exemple, en ce qui concerne les troubles mentaux, c'est souvent, mais ce n'est pas uniquement ça, mais c'est souvent la durée des symptômes. À partir de telle persistance des symptômes, y a vraiment un problème et il faut traiter. Là, je prends juste un critère. Par exemple, on prend l'état de deuil. L'état de deuil, on sait tous ce que ça provoque, la perte d'un être cher, une tristesse, des affects qui, évidemment, ont une allure dépressive, plus ou moins intense. Et on sait tous que le deuil, pour l'élaborer, pour arriver à surmonter ça, il faut du temps. Au fil des versions, les cinq, on a cinq versions de ce manuel, la dernière date de 2013. Au fil des versions, ce temps nécessaire à l'élaboration du deuil a diminué et maintenant il a disparu. C'est-à-dire que, par exemple, je ne vais pas évidemment retracer tout ça, c'est pour donner un exemple, dans la quatrième version de ce manuel du DSM, il y avait un critère de durée de 2 mois. C'est-à-dire que si l'affect de deuil, de tristesse persiste au-delà de 2 mois, on peut éventuellement considérer que c'est pathologique et on peut donc traiter, évidemment, par antidépresseur. Ce sont les recommandations du manuel. Je ne dis pas que tous les praticiens les appliquent à la lettre, heureusement. Mais en tout cas, déjà, on peut s'étonner c'est quoi ce délai de 2 mois. Personnellement, ça me paraît un peu court, mais bon. Mais en tout cas, c'est vraiment un délai arbitrairement fixé, décidé par les chercheurs qui fabriquent le manuel aux États-Unis. Donc déjà, on peut regretter ça, mais on peut aussi regretter que déjà l'état de deuil, qui est hélas assez courant, soit considéré comme un trouble mental. Non ? Et dans la cinquième version, qui est celle de 2013, le délai de 2 mois a disparu. C'est-à-dire que si quelqu'un, si un médecin prend à la lettre le manuel, qui s'est imposé longtemps, hein, qui a quand même encore une dominance importante, moins en France, heureusement, mais si on prend bêtement la chose, on peut décréter que ces affects dépressifs liés au deuil sont pathologiques dès le lendemain de la perte d'un proche, dès une semaine après, 15 jours après, etc. Donc, vous voyez, ça c'est l'abaissement des seuils du diagnostic. Ça passe souvent effectivement par la question de la durée du symptôme. Et on peut dire que finalement, jusqu'à la quatrième version, le deuil, si on était dans un état de deuil, un mois après la perte d'un proche, c'était normal. Mais on voit qu'avec la cinquième version, ça peut être tout de suite pathologique. Et donc, le deuil s'est transformé en état pathologique dans la cinquième version du manuel. Et donc, on pathologise, je ne sais pas si c'est le mot un néologisme certainement, des états qui étaient donc auparavant considérés comme étant normaux. Et donc on crée sans cesse de nouvelles étiquettes diagnostiques. Il y a plein d'exemples, certains assez marrants, mais bon, de troubles de l'humeur, etc. Il y a beaucoup de nouvelles étiquettes diagnostiques autour des troubles de l'humeur, parce qu'on a quand même des thymorégulateurs, on a des antidépresseurs, bon, ça peut marcher assez bien. Mais on a des troubles de l'humeur, par exemple, d'humeur explosive. Excusez-moi, mais c'est que déjà j'ai du mal à me concentrer à cette heure-ci. Désolée. Donc, les troubles de l'humeur explosive, qui est un trouble de l'humeur attribué aux enfants de plus de 6 ans, qui sont très colériques et irritables, et qui présentent au moins 3 accès de colère par semaine pendant plus d'un an. Bon, peut-être dans la prochaine version, on va effacer pendant plus d'un an, et il reste 3 colères par semaine. Pour ceux qui ont des enfants, on peut imaginer, vous pouvez aisément imaginer que 3 accès de colère pour certains enfants, certes c'est très pénible, mais est-ce que c'est pathologique pour autant ? Donc il y a plein d'exemples du fait que la timidité est devenue une phobie sociale. Les pertes de mémoire liées à l'âge sont devenues des troubles neurocognitifs, avec toujours ces étiquettes comme ça scientifiques ou pseudo-scientifiques qui en imposent. Il y a plein d'autres exemples. Oui, l'enfant turbulent est devenu hyperactif. Sans parler du trouble de l'humeur prémenstruelle, qui peut concerner une bonne partie de l'humanité, vous serez d'accord avec moi. Le trouble lié à l'utilisation de la caféine, là je peux en témoigner aujourd'hui. Et en fait, en tout cas, on est à peu près sûr qu'on est tous dans ce manuel, qui est quand même un manuel de troubles mentaux. Soit on est tous malades, soit il y a un problème avec ce bouquin. Et donc, effectivement, comme l'une des activités principales des psychiatres consiste à poser des diagnostics, à l'image de toute spécialité médicale, donc ça devient une tâche de plus en plus compliquée, parce qu'il y a quand même plus de 400 catégories diagnostiques maintenant, avec une imprécision clinique. C'est compliqué pour le médecin, des médecins m'ont parlé de ça, c'est compliqué de comprendre, de plus en plus compliqué de comprendre ce qu'il faut vraiment retenir comme critère, avec une langue parfois complexe pour le clinicien, etc. Mais évidemment, l'idéologie sous-jacente, c'est que toute forme de souffrance psychique et pathologique, forcément, on va conseiller de traiter cette souffrance. Et évidemment, les recommandations sont psychothérapeutiques, mais aussi évidemment médicamenteuses, parce que forcément, la surenchère diagnostique va de pair avec la surenchère de prescription de médicaments. Et on voit dans les courbes statistiques, depuis la quatrième version du manuel, aussi la prescription notamment de psychotropes en général, mais notamment de thymorégulateurs et d'antidépresseurs, a fait un bond impressionnant. Et évidemment, ça répond aux attentes des laboratoires pharmaceutiques, et donc des millions de personnes dans le monde. 6% des enfants scolarisés aux États-Unis, quand même, sont diagnostiqués avec un trouble mental et donc traités avec des médicaments. Et j'en parlais avec quelqu'un avec lequel je travaille pour ce type de recherche, qui est un chercheur états-unien, qui est historien des sciences, et qui me disait que les experts qui élaborent le manuel travaillent tous dans les firmes pharmaceutiques. Et alors moi, avec mon réflexe latin, ah mais c'est un conflit d'intérêt, il m'a dit mais pas du tout, enfin c'est pas un conflit d'intérêt, enfin ça se sait, c'est admis, enfin voilà, c'est pas illégal. Donc personne ne s'en cache, hein, en tout cas, mais évidemment on est, pour nous c'est quand même préoccupant. Et évidemment, le système de santé, ça n'a rien à voir, hein, heureusement, mais parce que bon, là, aux États-Unis, évidemment, les compagnies d'assurance, vous le savez, payent les médecins au diagnostic. Hein. Donc, effectivement, le fait de poser un diagnostic a un impact direct sur les salaires des médecins et évidemment sur la vente des médicaments. Bon, pourrait parler longtemps de tout ça, qui me tient très à cœur. Et c'est vrai qu'on nous promet sans cesse, on parlait de la mort, enfin, on faisait référence à ça, au fait qu'on a du mal à en parler, et on nous promet sans cesse l'immortalité. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais pas quel scientifique, il n'y a pas longtemps, qui disait que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Hein, peut-être, hein, moi je suis personne pour le contredire, mais enfin voilà, dit comme ça, ça paraît plus de l'ordre de l'illusion, non ? Mais on nous promet aussi le bonheur, hein, et je travaille aussi avec un neurobiologiste de Bordeaux, quelqu'un de très intéressant qui s'appelle François Gonon, qui est un peu scandalisé par toutes ces affaires, surtout, il travaille beaucoup la question de l'hyperactivité chez l'enfant, hein, de troubles de l'hyperactivité, et donc il a épluché, il a fait quelque chose de rare, il a épluché tous les articles scientifiques qui sont parus, hein, sur à ce domaine-là de l'hyperactivité chez l'enfant, et les articles de presse qui restitue les résultats des articles scientifiques. Donc c'est rare, hein, ce qu'il a fait, c'est pour ça que c'est précieux. Et en fait, bon, il a constaté plusieurs choses. Un, que c'est souvent, en tout cas en ce qui concerne cette question plus précisément, mais pas uniquement, c'est qu'il y a toujours la rhétorique de la promesse. C'est-à-dire qu'on nous promet, par exemple, sans cesse qu'on va découvrir la cause biologique de l'hyperactivité. C'est pas tout à fait prêt, mais ça va venir. Donc c'est toujours sur la promesse que la psychiatrie biologique travaille. Donc on nous promet d'éradiquer la folie. Et il a aussi remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que évidemment les articles qui mettent en avant le fait que on est en passe de découvrir l'origine vraiment de l'hyperactivité, sont publiés dans les revues les plus prestigieuses, donc ils passent plus facilement, hein, ils sont publiés plus facilement dans les revues les plus prestigieuses, et tous les articles qui nuancent la chose et qui disent bah, finalement non, enfin, on n'est pas du tout en passe de découvrir la chose, c'est moins évident. Donc évidemment, ce sont des articles qui sont plus facilement refusés dans les revues prestigieuses. Et donc, elles passent, donc ces recherches passent beaucoup plus inaperçues. Et encore quelque chose d'intéressant qu'il a remarqué, c'est que quand les auteurs des articles les plus prestigieux, hein, ceux qui promettent le bonheur à portée de main, là, tout de suite, ou alors ça ne va pas tarder, ils passent à la télévision, ils passent à la radio. Et en fait, il a constaté, François Gonon, que pressé par les journalistes de dire, quelque chose de très simpliste et de dire que oui, qu'on est en passe de découvrir la chose, etc., les auteurs de l'article présentent des conclusions à l'antenne, à la radio, plus optimistes c'est-à-dire présentent des résultats plus optimistes que les résultats qu'eux-mêmes ils ont écrits dans l'article. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, voilà, pour aller vite, pour plaire aux journalistes, qui les pressent aussi à donner ce type de résultats, bah, ils vont se citer eux-mêmes, mais sous un versant beaucoup plus optimiste que ce qu'ils peuvent effectivement lire, écrire dans les articles. Bon, je passe sur les biais méthodologiques de beaucoup de recherches quand même en psychiatrie, c'est pas le... Voilà, parce que le temps presse. Mais... Alors, ça, c'est le modèle de recherche dominant à l'heure actuelle. Hein. Et évidemment, heureusement, il y a de nombreuses critiques croissantes de médecins à l'égard de ce modèle, y compris de psychiatres qui ont participé à l'élaboration de ce manuel. Ce qui est quand même assez intéressant. Parce qu'ils disent, bah, c'est devenu n'importe quoi. Ça ne reflète pas du tout l'être humain. Et donc, ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est que bon, y a des pétitions, il y a des appels, etc., au retour à une clinique humaniste, à une recherche humaniste qui soit plus proche des patients, qui soit respectueuse de la singularité de l'humain, de sa complexité inaliénable aux objectifs de l'industrie pharmaceutique. Et c'est un mouvement de retour à une clinique humaniste qui n'atteint pas uniquement la psychiatrie. Ça atteint aujourd'hui de très nombreuses spécialités médicales qui veulent, des médecins qui veulent vraiment mettre en valeur leur sens clinique, leur intuition au moment de poser des diagnostics et des pronostics. Et à ce titre, je donne un exemple très intéressant d'une recherche qui a été menée en Allemagne en 2005 auprès de 1000 patients à peu près, un peu plus. C'est une équipe de chirurgiens qui a comparé deux méthodes différentes pour prédire l'évolution des patients qui avaient subi une chirurgie digestive. Donc ils se sont dit, on va prédire l'évolution après la chirurgie de ces patients par deux méthodes différentes. Une méthode, l'intuition clinique des médecins qui avaient opéré ces patients, et le logiciel qui est très utilisé, hein, de cotation dans le domaine de la chirurgie notamment, qui évalue les risques de mortalité, de complications post-opératoires, etc. C'est-à-dire on a comparé l'humain et le logiciel, et évidemment les résultats sont positifs dans le sens, enfin en tout cas pour moi, peut-être pas pour ceux qui élaborent les logiciels et qui les vendent, mais les résultats montrent, mais vraiment sans ambiguïté, hein, je n'ai pas les chiffres en tête, que le pronostic des chirurgiens est bien plus précis que les logiciels de cotation. Les logiciels, alors j'imagine qu'ils ne sont pas tournés comme ça exprès, enfin je veux imaginer, mais en fait le logiciel donne des prédictions de pronostic beaucoup plus péjoratives, vraiment beaucoup plus péjoratif que ce que les médecins ressentent et peuvent penser de l'évolution des patients après la chirurgie. Et il y a plein d'autres études comme ça, donc dans plein de spécialités médicales en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui montrent que finalement, l'expérience clinique du médecin peut être plus efficace que les méthodes objectives issues des statistiques. Alors, il ne s'agit pas du tout de dénoncer les progrès de la science et le fait que les données statistiques aident le médecin a, bien sûr, à poser ses diagnostics, etc. Moi, personnellement, je n'ai pas très envie que mon médecin ne me fasse pas bénéficier des progrès de la science, des connaissances, et les données statistiques, c'est aussi l'état des connaissances, bien sûr. Même si on peut se plaindre du médecin qui reste rivé à son ordinateur pour voir pour que le logiciel lui dise ce qu'il faut penser. Évidemment, ce n'est pas ça la question. La question, c'est que, il y a un clivage actuel entre les ambitions, le discours d'une recherche, hein, d'une recherche, notamment en psychiatrie, je reviens à ça pour conclure, qui est quand même très coupé de ce qui se passe dans la relation de soins. Et c'est, je tiens à dénoncer les effets donc néfastes d'une recherche qui est de plus en plus éloignée de l'humain alors que l'humain est son objet d'étude. Et alors, pour conclure, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, en tout cas dans ces recherches, nous ne sommes pas davantage atteints de troubles mentaux. C'est la définition des troubles mentaux qui s'est élargie, avec évidemment l'invasion de la pathologie dans la normalité. Alors, je ne sais pas ce que c'est la normalité. Alors, j'avance. Si jamais quelqu'un a l'idée de me poser la question, tout de suite, je dis non, ne me posez pas la question. Qu'est-ce que la normalité? Parce que j'en sais rien. Et au final, qu'est-ce que la normalité? Je ne sais pas si elle existe, en quoi elle consiste. Est-ce qu'on doit la définir, d'ailleurs? Mais en tout cas, la question, c'est est-ce qu'on doit la traiter, sachant qu'il n'existe pas de normalité sans souffrance. Je pense que c'est Canguilhem, médecin philosophe, qui disait que finalement, il y a seul le sujet, chacun d'entre nous peut savoir ce qui s'écarte de sa propre norme, hein, ce qui est devenu peut-être inhabituel dans sa vie. Finalement, chacun sait, je ne parle pas des troubles très graves, hein, en psychopatho, évidemment, hein, mais chacun, finalement, sait quelle est sa dose un peu tolérable de souffrance, hein, dans son parcours de vie. Et donc, je pense que dans beaucoup de cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, je pense qu'on doit pouvoir trouver une autre manière de faire face aux difficultés de la vie. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on attende sans cesse du progrès scientifique qu'il apaise l'angoisse d'exister. Parce que je pense aussi que parfois nous sommes dans une position de consommateur passif de santé et avec une attente démesurée à l'égard de la science. Parce que moi la première, j'aimerais bien avoir des réponses scientifiques simples à des questions complexes. Mais je conclue là-dessus. J'avais vu un film il y a très longtemps qui s'appelait Le Journal d'un séducteur, et c'était au moins une vingtaine d'années, un film français. Et ce qui m'a, je me souviens ni de l'intrigue ni de la. C'était une réalisatrice, mais je me souviens pas de son nom, mais il y avait une scène le personnage principal, un jeune homme, allait chez le psychanalyste, et le psychanalyste était plus dépressif que lui, non, ce qui n'est quand même pas inhabituel non plus. Et donc le jeune homme va, lui raconte ses misères, etc. Et le psychanalyste lui dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il n'y a pas de remède à l'existence. Et ça m'est resté, ce truc. Bon, évidemment, j'espère qu'on ne fait pas ça. Bon, parce qu'il le débarquait complètement du cabinet, quoi, hein, en disant ça, mais il n'y a pas de remède à l'existence, ça m'est resté comme quelque chose que, finalement, par rapport à la souffrance tolérable, des aléas de la vie de nous tous, on ne peut pas toujours trouver un remède du côté de la science, ou en tout cas du côté des médicaments. Voilà. Merci.
Merci, Dolores. Et doublement merci parce que Dolores a participé, organisé et animé une journée d'études sur cancer, corps et guérison toute la journée. Donc, merci.
J'ai voulu changer de sujet.
Voilà, ouais. Ça continue jusqu'au soir et merci à toi. Et je pense que nous garderons le temps des questions à la fin pour relier nos trois exposés. Et donc, je passe la parole donc à Ingrid, qui va se présenter aussi.
Oui, alors je suis professeure de philosophie. Docteur aussi en philosophie, et j'enseigne dans la Cagne de Poitiers à Camille Guérin en lettres, en classe de lettres après le baccalauréat. Et mon propos va peut-être rejoindre, enfin je pense, d'une manière multiple ce qui vous a été dit. Je vais peut-être parler tout simplement du soin, un petit peu en amont de toutes ces questions médicales qui sont préoccupantes, en effet, parce que ce qui vient d'être dit, ça veut dire au fond qu'on a affaire à une médecine qui est dans une causalité, disons, physique, dans une causalité des sciences de la nature. Et si on est dans une causalité qui ressort des sciences de la nature, on est dans une médecine très largement vétérinaire. Donc c'est forcément inquiétant. Voilà. Mais mon propos, ce n'est pas de critiquer, c'est de faire l'éloge. C'est pour ça que j'ai appelé mon exposé « Éloge du soin ». en empruntant mon titre à Maître Eckhart, « Seul ce que tu donnes t'appartient ». Le propos de cet exposé donc est d'éveiller aujourd'hui quelque chose comme un respect pour le soin, en tant qu'il exprime notre lien irréductible d'humanité. Comme tel, la relation de soin est le grossissement quasi macroscopique d'un phénomène qui gît au cœur de toute relation humaine et qui en manifeste exemplairement la vérité et la fragile grandeur. Au regard de ce qui advient usuellement, si mon propos peut prendre parfois une certaine résonance critique, je souhaite que ce soit toujours eu égard non à la négativité de la critique, mais plutôt à son être ouvrant. La relation de soin par excellence est la relation thérapeutique. Elle instaure un lien entre les personnes malades ou très affaiblies et celles qui les soignent, c'est-à-dire avant tout celles qui prennent soin d'elles, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, certains proches, d'autres parfois apparemment moins proches qui le veulent bien et qui pour cette raison sont appelés des bénévoles. Cette relation instaure un lien non seulement parce qu'elle dispense au moment requis des soins efficaces à qui le requiert, mais encore et surtout parce qu'elle trouve là, au décours de ce qui se révèle nécessaire ou simplement profitable, l'occasion pour une rencontre humaine, c'est-à-dire pour ce surcroît, ce supplément gracieux, sans lequel tout soin, dans son efficacité même, se trouve compromis. Ainsi, comme il va de soi que toute relation de soin n'est pas nécessairement l'occasion d'une rencontre, il faudrait notamment pouvoir établir à quelles conditions une telle relation peut éventuellement se faire rencontre. On pressent d'emblée que ceci implique qu'avoir reçu la qualification de soignant et se faisant observer par exemple les règles d'hygiène, d'asepsie ou effectuer les bons gestes au moment opportun, ne suffit pas à épuiser entièrement la question du soin qui, par son exemplarité même, donne beaucoup à penser. Je souhaite partir de quelques données philologiques. Comment se fait-il tout d'abord qu'en français nous disions « prendre soin » là même où nous ne prenons rien, mais sommes plutôt dans la situation de qui dispense des soins et par conséquent de qui donne. Ce fait de langue est remarquable. Dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, dont le chapitre 6 est précisément intitulé « Donner, prendre et recevoir », le linguiste Émile Benveniste en traite à propos des langues anciennes, où le fait a cours également. Je n'entrerai pas dans le détail, bien entendu, sachant simplement que le hittite nous instruit que les notions de donner et de prendre sont liées dans la préhistoire de notre famille de langues, la famille indo-européenne. Ce lien s'explique particulièrement par cette idée qu'il faut prendre pour donner, mais il est plus profond encore. Dans son sens grec, le cadeau, le présent, le don, l'offrande et même la paume de la main se disent « doron ». Et le fait de donner correspond au mot « dosis » qui, passé en dans le latin, donne « dosis », substantif de « venenum », terme en usage dans la langue médicale lorsqu'il est question de la dose d'un remède. Ainsi, le don, à plus forte raison sous forme de dose, peut s'avérer dangereux, comme le révèle également le nom même de cadeau, gift, dans les langues germaniques, qui signifie tout aussi bien poison. Ce poison, c'est la dette implicite qu'engendre le cadeau, laquelle pèse de tout son poids lorsqu'on préférerait ne pas être en lien avec le donateur. Le don est la pièce maîtresse d'une institution majeure de l'Antiquité, l'hospitalité. Le nom lui-même est parlant pour nous, de la même famille en effet sont hôpital et hospice, maison dévolue à l'accueil des étrangers dans les couvents, puis asile des indigents. la spécialisation médicale du lieu ne se faisant jour que tardivement, plus tardivement du moins, au XVIIe siècle. L'hospitalité, à l'origine, et tout d'abord chez Homère, caractérise l'humanité civilisée, par opposition à ces monstres extraordinaires auxquels Ulysse est confronté dans son voyage de retour. Dans l'Odyssée, l'homme par excellence est caractérisé de quadruple manière. Il est le mortel, le mangeur de pain, le buveur du mélange d'eau et de vin, et celui qui respecte les lois sacrées de l'hospitalité. L'hospitalité est l'accueil dû à l'étranger, à l'hôte qui est sous la garde protectrice de Zeus hospitalier. L'hôte lui-même est révéré, honoré à l'égal d'un dieu. Il est nourri, restauré, couvert de présents, puis questionné et écouté. Ultérieurement, celui qui a été accueilli, lui ou bien l'un de ses descendants, pourra à l'occasion restituer l'hospitalité reçue en mémoire du bienfait. Le partage de la tessère d'hospitalité, un tesson de poterie brisé en deux et que l'on conserve, atteste du caractère indissoluble du lien contracté. Cela en est le symbole. Cette institution majeure s'éclaire également, pourvu que l'on songe au potlatch de certains Indiens du Canada. Il faut entendre par là le don agonistique, le don où l'on rivalise de générosité. L'hospitalité serait une forme atténuée de ce potlatch. L'institution se fonde sur l'idée qu'un homme est lié à un autre, puisque la prestation dont il est bénéficiaire l'engage dans une logique de restitution ultérieure, une logique de compensation, voire de surenchère. Tout cela ne saurait nous étonner pour peu que l'on accepte de réfléchir au paradoxe qui s'attache à l'idée de don, qui ont magistralement été mises au jour par l'essai sur le don de Marcel Mauss. Dans cet ouvrage, l'ethnologue expose la diplomatie complexe des échanges cérémoniels dans les sociétés archaïques, c'est-à-dire les sociétés sans État. Pareils échanges n'ont rien à voir avec nos échanges marchands. Marcel Mauss montre que donner, prendre et recevoir sont associés et se produisent dans une atmosphère d'obligation qui appelle réversibilité et circularité, de sorte que s'il y a évidemment de la gratuité dans le don, de tradition, le don n'est à vrai dire jamais entièrement gratuit. Rapporté à la question du soin, et particulièrement à celle du soin à procurer, à prodiguer, à dispenser, spécialement à des personnes affaiblies ou malades, qui est le cœur brûlant de notre commun propos ce soir, ces considérations doivent inciter à quelque vigilance. On pourrait en effet être tenté d'opposer le suivi médical d'un malade qui allait dehors d'une simple relation contractualisée, transactionnelle en quelque sorte, où le coût et la qualité des soins, comme il se dit de nos jours, entrent en jeu, et les bienfaits prodigués par la famille ou par des proches, voire par d'autres encore, intervenant à titre gracieux, comme si la sollicitude n'avait cours qu'en ce dernier cas. Cette opposition est en très grande part faussée. La sollicitude du soin, la sollicitude dans le soin, c'est-à-dire la sollicitude dont témoigne le soin, bref, le don que constitue d'une certaine façon le soin, a plus d'un tour dans son sac. Il se prodigue le plus souvent de manière discrète, là même où il ne s'annonce pas comme tel. Cette opposition entre les professionnels du soin et les proches, par exemple, est donc faussée, d'une part parce qu'elle méconnaît l'essence paradoxale du don que je viens d'évoquer, d'autre part parce qu'elle ignore la complexité de la relation de soin et les difficultés qui l'encombrent. Elle est faussée, enfin, parce qu'elle n'a pas suffisamment médité le sens et la centralité du soin dans la coexistence des hommes. C'est à ce dernier point, qui n'est pas le moins philosophique de tous, que je voudrais pouvoir en venir avec vous ce soir. Il y aurait beaucoup à dire sur le don, sur la part de don qui subsiste en nos sociétés, sur la part de don qui doit y subsister sous peine de dépérissement. Le phénomène est subtil. Pour l'entendre, il faudrait à la fois faire fi du cynisme et juguler tout débordement d'idéalisme. Le cynisme consisterait à laisser entendre « le don est impur, donc tout est régenté par l'échange marchand et il n'y a pas de don ». L'idéalisme outrancier consisterait à dire symétriquement « le don proprement dit est celui qui donne sans nul retour ». Je suis d'autant plus fondée à dire cela que ces écueils ont été fort clairement repérés par Alain Caillé, le fondateur du MOS, soit le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. Les temps sont durs mais modernes, déclare un proverbe italien. Cela veut dire que l'individu moderne veut bien subir des reproches mais non s'avouer naïf. Il se veut réaliste, il veut faire prévaloir le sexe sur les sentiments, l'intérêt matériel sur la générosité, la violence du pouvoir sur la responsabilité. Il importe de ne pas céder à cet utilitarisme ambiant. Nous savons bien que le don, pour autant qu'il est reçu de bonne grâce, engendre un gain et pour qui le reçoit et pour qui le dispense. En droit, on parle de donateur et de donataire, s'agissant par exemple de celui qui reçoit une donation. Il y aurait donc gain et pour le donataire et pour le donateur. Cependant, le gain n'est pas nécessairement du même ordre de part et d'autre. En apparence, le donateur ne reçoit rien. Toutefois, il bénéficie d'un gain moral quasi inestimable, et ce, que le don soit ou non accompagné de reconnaissance. Car la satisfaction d'avoir su se montrer secourable apparaît de l'aveu même de ceux qui font œuvre de donner, notamment les bénévoles qui ne ménagent ni leur temps ni leurs efforts, comme le gain des gains. Encore faut-il à ce sujet être très clair. Qu'une satisfaction puisse échoir au donateur n'annule pas le don, car la joie de donner, d'avoir eu la force de donner, et surtout, chose rare et difficile, l'intelligence de donner à bon escient, est éprouvée le plus souvent sans que cette satisfaction n'ait été recherchée, provoquée, projetée et même prévue. La joie du don ne motive rien. Elle vient s'ajouter au geste qu'elle couronne, comme ces statues des Charites, les trois grâces, joie, abondance et splendeur, dont parle Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, qui ornent la place publique où elles se font garantes du plaisir de vivre ensemble, sans lequel il n'y a point de communauté politique qui vaille. Que les statues des Charites soient ainsi au centre de la cité antique, enseigne quelque chose de parfaitement étrange pour notre esprit moderne, quelque chose qui n'a rien de consensuel parce qu'il invalide la logique des moyens et des fins. Même ce qui apparaît sous les dehors d'un accord ou dans la sphère de nos occupations, voire de nos métiers, ce qui vise l'efficacité, repose secrètement sur la centralité du don. C'est ce que suggère Aristote, qui autorise par là même à caractériser le soin à nouveau frais, à définir le soin sans oublier la part cachée du don qu'il abrite secrètement. Convenons donc ensemble qu'il y a du soin, du prendre soin, qu'il s'agisse ou non de soins thérapeutiques, partout où des ressources, à commencer par des ressources matérielles, sont mises à la disposition de l'être humain pour préserver, sauvegarder et restaurer si besoin la capacité de tisser du lien avec son propre monde et avec les autres. Ainsi, l'activité de soigner pourrait être tournée, du moins en ultime instance, même si le plus souvent c'est sans le claironner, mine de rien, comme on dit, vers l'aptitude pleinement humaine à être en lien, à rester en lien malgré tout, et dans l'adversité de l'être malade, envers et contre tout. Car être, pour l'homme, c'est tout bonnement être en lien. Le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey enseigne que la locution « prendre soin d'eux » apparaît dans notre langue en 1535 avec le sens de « s'occuper du bien-être de quelqu'un ». L'expression est à rattacher à « soigner », verbe dérivé du latin médiéval « soignare », qui signifie en premier lieu « pourvoir aux besoins matériels ». On notera, non sans une pointe d'humour, que soignante, c'est employé en ancien français au féminin, évidemment, au sens de concubine. Précisons d'emblée que la réalité du soin n'est pas si rose. Les traitements dispensés aux malades ne sont pas toujours tournés vers le seul bien-être, et il est déjà fort beau dans bien des cas qu'ils puissent viser la santé ou un certain mieux-être. D'ailleurs, certains actes de soins peuvent se révéler invasifs, pénibles, douloureux, délicats à mettre en œuvre. Bien que la relation de soins se fonde médicalement sur des procédures et des protocoles qui se doivent, puisqu'elles témoignent de compétences professionnelles incontestables, d'être rationnelles et normées, il convient, là même où il ne cesse d'être question de la qualité des soins, de rappeler que le soin en tant que relation ne saurait être ni un produit, ni une marchandise, ni même uniquement un acte qui relève de la seule compétence technique de ceux qui le mettent en œuvre. Un penseur allemand du XXe siècle, Martin Heidegger, et on ne peut plus à même de libérer notre regard pour l'engager à mieux voir cela. Il est sans doute bien connu que Heidegger est par excellence le penseur de la finitude et du temps. Ce qui, en revanche, n'est pas aussi bien connu et demande encore à être reconnu est que rarement une pensée aura placé aussi haut la possibilité qui se déploie dans la dimension essentielle de liberté qu'est la véritable altérité entre êtres humains, comme l'écrit Adrien François Lanor. Heidegger part de l'être ensemble. C'est là ce qui est premier à ses yeux. Le fait d'être ensemble, mitsein. Le fait d'être ensemble est pour lui aussi original que le fait d'être au monde. Nul n'est d'abord au monde, puis ensuite seulement en rapport avec d'autres. C'est grâce aux autres bien plus tôt que rapport au monde il y a. Les êtres humains ne sont pas des sujets enfermés en eux-mêmes comme des maisons sans portes ni fenêtres ou des spationautes encapsulés dans leur véhicule intersidéral, mais plutôt, selon la propre terminologie de Heidegger, autant de « Dasein » dont la structure essentielle est désignée en tant que « souci »,« Sorge » en allemand. « Dasein » a l'allure d'un terme difficile parce qu'il s'agit d'un mot allemand et aussi surtout parce qu'il ressortit tout spécialement à la langue d'un penseur. Toutefois, il ne faut pas se laisser impressionner par cela. Ce que Heidegger entend souligner lorsqu'il rebaptise l'homme ainsi, c'est précisément ce que, d'une toute autre façon, nous avions appris d'Homère, à savoir que l'homme est bien avant tout le mortel. Aussi ai-je été très sensible à tout ce qui s'est dit sur la mortalité et le déni de la mortalité aujourd'hui. Ainsi, le mot « Dasein » ne veut pas dire « être là », mais y être, soit être au monde en qualité de mortel, au sens de pouvoir n'être plus là. La vie ne saurait esquiver la mort, ni s'en détourner, car la vie humaine en tant qu'existence est aux prises avec elle-même. Elle l'est à proportion qu'elle est aux prises avec être. Le souci va de pair avec cette confrontation avec ma finitude, car l'aptitude angoissante à ne plus être est tout le privilège de l'être humain. Telle est la ressource où il vient puiser et sa joie et sa douleur. Voilà pourquoi seul l'être humain, en tant qu'il a accès à être ou à l'être, accède à l'éminente dignité d'avoir un destin. Ici, il faut bien saisir que le souci doit être détaché du sens ordinaire qu'on lui assigne quand on en fait un synonyme de tourment, d'inquiétude ou de trouble. D'ailleurs, contrairement au terme français « souci » qui vient du latin « sollicitare », « agité, fortement, troublé », le mot allemand « sorge » se rattache à « servare », « garder, préserver ». Le souci en latin se dit « cura ». Le mot, on l'aura deviné, veut dire tout aussi bien le soin, au sens de veiller sur, avoir égard pour, avoir cure, penser à, y penser. Dans la pensée de Heidegger, la structure unitaire du souci se déploie en souci de soi en souci préoccupé des choses et en souci mutuel. La relation de soin en tant que relation thérapeutique ne peut donner toute sa mesure que parce qu'elle s'inscrit dans l'horizon du souci mutuel, cette modalité du souci qui a pour vocation de faire droit à l'altérité de l'autre. Dans le tome 21 de ses écrits, Heidegger expose que pour saisir le phénomène du souci, il ne suffit pas d'élargir ou de modifier ce qui vaut pour la préoccupation des choses. Il ne suffit pas non plus de s'en tenir à la distinction courante qui veut que le rapport avec autrui soit différent du rapport avec ces choses. Certes, nous ne faisons que prendre en vue les choses en y faisant attention et nous nous en préoccupons, tandis que nous nous soucions d'autrui. Cela veut dire que nous avons de l'égard pour lui et pouvons manifester, le cas échéant, une indulgente patience à son égard. Nous avons égard ou n'avons pas égard, hein, tout est possible. Ainsi, être ensemble avec autrui dans un mutuel souci implique une entente spécifique qui n'est pas en première intention cognitive. Cette entente, c'est une manière de vibrer à l'unisson dans une tonalité conjointement ressentie, si bien qu'il ne saurait y avoir d'entente mutuelle qui ne dénote un certain climat d'entente. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait du diagnostic, ce qui est très important dans un diagnostic, je pense, et dans la rencontre, c'est l'ambiance, le climat qui se crée. Et il y a des climats, je me souviens de Jean Naudin, professeur de psychiatrie à Marseille, qui me disait il y a des climats, mais il y a un climat de la rencontre avec le mélancolique, par exemple. Et ça, c'est pas... Ce ne sont pas des critères sémiologiques d'un manuel qui permettent évidemment de s'en rendre compte. Hein, la physionomie de l'être ensemble, si j'ose dire. Toutefois, la plupart du temps dans le monde quotidien, les autres occupent des places, assument des rôles parfaitement attendus et les choses du monde ambiant renvoie à ces autres avec qui nous coexistons dans une familiarité sans surprise. Des voitures sur le parc de stationnement, ce sont celles des collègues avec qui nous sommes en relation de travail. Tel véhicule facilement repérable est une ambulance. Lorsque nous allons à la gare acheter un billet, derrière le guichet, il y a un employé de la SNCF. Et lorsqu'on nous réclame un billet de train, probablement il y a une présomption pour que ce soit un contrôleur. En arrivant pour une consultation à l'hôpital ou pour des examens, nous patientons non loin d'un guichet, parfois avec un numéro qui nous indique notre rang de passage, puis les formalités d'entrée et d'accueil sont accomplies par un membre du personnel hospitalier. Beaucoup de personnes entrent en relation avec nous pour autant que leurs préoccupations professionnelles l'exigent. C'est ainsi qu'un collègue qui ne nous adresse pas la parole ordinairement peut être amené à se tourner vers nous parce qu'il en a besoin. C'est au détour de ce qui est requis que tel ou tel en vient alors à s'adresser à nous, ou bien nous à lui. Selon ce mode de relation, nous sommes pour ainsi dire l'activité que nous exerçons. Nous sommes quasi identifiés avec ce que manifestement nous faisons. Nous le sommes sans toutefois nécessairement adhérer à aucun de ces rôles auxquels nous nous prêtons. Ici, le « qui » assume l'être ensemble qui se module en être en compagnie quotidien en étant immergé dans le monde de la préoccupation. Le qui n'est ni celui-ci, ni celui-là, ni nous autres, ni quelques-uns, ni la somme de tous. Il est le neutre, le on. Ce on existe à distance des autres, préoccupé par l'être dans la moyenne. Certainement, nous sommes en l'occurrence un peu plus ensemble que le micro et le bureau, qui, quoique situés à proximité, demeurent étrangers l'un à l'autre, car jamais un étant de ce genre, un ustensile, ne peut être ensemble avec quoi que ce soit. Et pourtant, dans cette espèce de côtoiement qui frise l'indifférence, nous sommes davantage les uns à côté des autres que véritablement ensemble. Telle est la dimension du « on ». Cette manière d'être ensemble est impropre, dans la mesure où autrui n'y est pas encore reconnu pour ce qu'il est, faisant pour ainsi dire un avec la préoccupation qui est nôtre, en disparaissant derrière elle. La routine en pareil cas n'est pas très loin. Cependant, il ne suffit pas tant s'en faut de s'en tenir à l'intime ou au soi psychologique pour se démarquer du « on ». Nous comprenons donc bien que là où il y a du soin, certaines distances ont été prises avec cet être dans la moyenne, avec le « on », avec ce mode d'être et de relation où autrui tend à faire un avec l'utilisable et qui, de manière plus générale, concourt à niveler toutes les possibilités d'être qui se font jour dans le souci de l'autre comme souci mutuel. Comme tel, le souci mutuel s'oppose à l'indifférence du simple côtoiement. Positivement, il admet deux possibilités extrêmes. Le mutuel souci peut se charger de se procurer pour le compte de l'autre de ce dont il a à s'occuper en se précipitant à son aide. Il peut également accorder à l'autre la liberté de faire face lui-même aux soucis. Heidegger précise que dans le premier cas, l'autre peut devenir dépendant et subir une domination qui s'exerce à mots couverts en demeurant imperceptible. Dans le second cas, il déclare « À l'opposé, il y a la possibilité d'un souci mutuel qui ne vient pas tant se mettre à la place de l'autre qu'il n'anticipe sur lui en allant au-devant de son pouvoir-être, non pour le décharger du souci, mais bien pour le lui restituer véritablement dans ce qu'il a de propre. Ce souci mutuel, qui intéresse essentiellement le souci véritable, c'est-à-dire l'existence de l'autre et non une quelconque chose dont il se préoccupe, aide l'autre à y voir clair dans son propre souci et à se rendre libre pour lui. » Si ces deux modes de souci mutuel s'opposent extrêmement, force est de reconnaître que la visée thérapeutique est à cet endroit saisie d'une difficulté toute particulière. Entre la pensée heideggerienne d'un souci mutuel qui, loin de se substituer à l'autre, le libère pour son propre souci en le devançant, et l'idéal d'une relation thérapeutique qui s'accomplit en véritable rencontre, nous voici en mesure de repérer une congruence stupéfiante. Mais il faut aussitôt ajouter à cela un correctif majeur. L'existence de l'être humain commence avec l'enfance, dans la vulnérabilité de la dépendance. Cette vulnérabilité que nous ne perdons jamais tout à fait, mais que nous avons tendance à oublier, pour autant que nous croyons au grand leurre de l'autonomie, se rappelle à nous au cours de certaines maladies et dans le grand âge, lesquelles requièrent assistance et soutien. La relation thérapeutique n'est pas à l'abri des risques que comporte toute relation. Se substituer à l'autre de manière autoritaire en lui portant secours ou, au contraire, se montrer trop peu secourable. Toutefois, sa chance, la chance de qui soigne, est de ne pouvoir manquer d'être particulièrement averti de ce double risque. Qui soigne nous guide sur un sentier étroit et escarpé qui serpente entre deux abîmes, celui de la domination et celui de la négligence. C'est pourquoi une relation thérapeutique réussie est un accomplissement humain de première grandeur. Soigner dès lors, ce serait assister un malade affaibli, non certes pour lui ôter sa liberté, mais pour ou bien le délivrer de ce qui fait le plus crûment obstacle à cette liberté, à commencer par la douleur et la souffrance, ou bien pour partager avec lui le secret lourd à porter de cette insigne douleur, que cela ne soit guère possible. Il me plaît de penser que c'est le médecin qui parle en Tchekhov lorsqu'il s'adresse à Olga Knipper dans sa lettre du 2 janvier 1902 en ces termes « Les souffrances, il faut les exprimer comme elles s'expriment dans la vie, c'est-à-dire non à coups de pied et de poing, mais d'un ton, d'un regard, non par des gesticulations, mais par la grâce. » En somme, la maladie et le soin nous enseignent que nous sommes voués à la primauté de la coexistence et que l'existence de tout un chacun est entre les mains des autres, comme le dit simplement ce propos d'une femme Peul, nous disons que la vie vient des mains, elle retourne dans les mains. C'est un proverbe. Un nouveau-né est accueilli par des mains, ce sont des mains qui le saisissent, qui lui coupent le cordon ombilical, qui le lavent, ce sont des mains qui lui donnent la vie. Le jour de la mort, c'est encore dans les mains que la vie retourne. Ce sont des mains qui vont enlever ses habits, laver son corps, l'envelopper d'un linge blanc. Ce sont des mains qui vont le descendre dans la fosse. Tout homme orgueilleux doit penser à cela. Il ne domine pas sa vie parce que du début à la fin, sa vie est dans les mains des autres.
Merci Ingrid de tout ce travail. Je voudrais aussi vous dire que Ingrid a écrit un livre qui s'appelle Intelligence du corps, donc aux éditions du Cerf, hein, et à la lumière de la pensée de Heidegger. Voilà. Merci. Donc c'est à mon tour, c'est difficile après vous deux. Mais je vais vous ramener à la réalité, un peu. À la relation soignante elle-même, voilà, un peu quelque chose de plus, un peu plus concret. Mais cependant, je vais quand même vous dire qu'en premier lieu, donc je vais revenir sur le travail de la relation soignante, sur ce qu'est la relation soignante. Et je vais revenir sur des choses de façon plus simple que vous avez évoquées, comme la rencontre, le lien, le déni de la mort, la gestion de la santé économique. Je vais revenir un petit peu là-dessus, mais de façon un peu plus légère. Et je voulais dire qu'en premier lieu, d'abord, lorsqu'elle développe une pensée de nature philosophique à partir de son champ d'activité, la médecine se fait philosophie, c'est ce qu'on vient donc de voir. Et le diagnostic de l'homme malade suppose la connaissance morale et physique de l'homme. Et ça, je pense qu'il faudrait, en tant que soignant, il faut toujours le garder en tête. En second lieu, lorsqu'elle se donne pour objet de veiller et d'accroître le bien-être de l'esprit et du corps, et je parle de bien-être et non pas de guérison ou je ne sais quoi, la philosophie se fait médecine. Il s'agit de prévenir et de tenter, de remédier au désordre de l'individu comme à ceux de la cité. C'est une référence à la philosophie antique, mais qui est toujours... Ce sont des échanges d'outils conceptuels entre les deux disciplines, au fil de l'histoire, qui permet l'édification d'une véritable pensée philosophique. La philosophie est à certains égards la mère de la médecine, a écrit Kurt Sprengel à l'aube du 19e siècle. Le perfectionnement de l'une ne va pas sans l'autre. Et l'histoire des liaisons entre médecine et philosophie trouve ses sources donc dans l'Antiquité. Et cela vit encore à une époque, la nôtre, très contemporaine, qui connaît pourtant une médecine totalement métamorphosée. Mais de plusieurs points de vue, la philosophie a inscrit une empreinte durable dans l'univers de la médecine et de la pathologie. C'est pourquoi nous restons, certains soignants, beaucoup de soignants de plus en plus, restent encore dans le questionnement, malgré la vitesse, la rapidité des progrès. C'est pourquoi aussi j'ai choisi de discuter, d'échanger avec vous un thème qui m'est cher, c'est la temporalité dans le soin, parce que dans ma pratique quotidienne d'infirmière libérale, c'est quelque chose que je retrouve. D'abord parce que pour être au plus près de la personne, j'ai cherché des concepts. Ce n'est pas toujours facile de travailler à domicile. Moi, je ne suis pas dans le diagnostic, je ne suis pas dans la recherche. Je suis chez les gens ordinaires, tout simplement. Et j'ai cherché des concepts pour travailler au mieux, pour être auprès de la personne. Et je le rappelle, la personne, c'est le patient, mais c'est aussi le soignant. Et nous sommes deux, et ça, il faut le rappeler. Là-dessus, je cite Michael Balin qui disait, qui donc était médecin et qui a beaucoup travaillé sur la relation soignante et qui disait au départ, la médecine, c'était pour tout le monde, mais quand on travaille sur la relation soignante, tout d'un coup, on est deux. Et c'est une relation sur laquelle il faut bien travailler. Donc la temporalité dans le soin, c'est une question aussi qui traverse toutes les autres dans le soin. Et pour moi, je dis, je rejoins aussi ce qu'a dit Ingrid sur prendre soin. Je ne dis jamais cette expression. Je dis je porte soin. Le temps, on ne sait pas ce que c'est. C'est comme la mort. Or, en ce moment, la mort, on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de la vie. On est formidable, on est fort comme tout. On ne sait pas ce que c'est que la mort et on n'en parle pas. On n'en parle plus. Alors qu'avant la médicalisation de la France, avant les années 1770, donc il y a très longtemps, bien sûr, mais on parlait, la mort, c'était partout. C'était naturel. Il y en avait, on ne faisait même plus attention. La vie, on n'en parlait pas parce qu'il fallait se battre pour survivre. Mais la mort était omniprésente. Chez nous, dans notre vie contemporaine, on n'en parle plus. Donc la mort, le temps, c'est aussi comme la mort. On en parle tout le temps, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Je vais rappeler les leçons de psychanalyse de Françoise Dolto qui parlait des nourrissons, de leur capacité à vivre ou à survivre à la naissance quand elle travaillait sur la mort subite des nourrissons. Et elle a elle-même répondu à une conférence sur la mort en 1996. C'était une conférence où on l'interrogeait sur sa propre mort à l'époque. Et elle disait, la mort, on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas la transmettre, on la vit. Seuls les autres peuvent en parler et ils en parlent après. Donc ça, c'est important. Mais c'est aussi comme la crise. On en parle, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et moi, je rajouterais, c'est comme les monstres sous le lit des enfants. Une fois qu'on a regardé sous le lit qu'il n'y a plus rien, on peut se recoucher, se rendormir, rassurer. Peut-être, parce que ça peut revenir. Alors le temps, puisqu'on en parle tout le temps, on va essayer de dire ce que c'est. On ne peut le saisir. Alors on a inventé des métaphores, de la poésie, des horloges, des mesures, des plannings pour le représenter. Il est parfois scientifique, surtout en médecine. Il est mythique, il est philosophique. Mais on a toujours besoin de le spécifier ou de le noter. Et on ne peut pas le toucher. Si on en parle, c'est par rapport à un manque. Et ça, c'est très important dans la relation de soins. Une absence aussi. Et de l'économie. Et on sait que le soin actuel est lié à l'économie, comme tu as pu le souligner, Dolores. Pour moi, il provoque une tension. Dans le soin, cette tension, elle est soutenue par la vie et la mort, et pour moi, il n'y en a pas d'autre. Que ce soit la petite maladie, la maladie psychique, la maladie mentale, la maladie somatique, la bobothérapie, l'ombre de la mort est toujours là. Il y a aussi du manque à gagner, dit-on. Enfin, ça, c'est les administrateurs, les comptables, les décideurs qui disent ça. Dans le soin, le temps donc est planifié, écrit, scientifique, calculé, cadré, cadrant, prévisible. Il est souvent une mesure. Il est donc forcément l'économie du soin. Mais jamais il n'appartient à autre que celui qui est traversé par le bouleversement que provoque la maladie en lui, quelle que soit cette maladie. Le manque qui le traverse est une prise de conscience d'un danger, d'une crise, dans son corps ou son psychisme, des fois les deux à la fois, d'une peur, on ne parle jamais de peur dans le milieu médical, c'est bizarre, d'une souffrance et d'une grande solitude. Le temps va alors avec ce manque, ce questionnement, et s'il y a un manque, c'est que cela existe quelque part et que le temps n'a pas de date. Je dirais que dans le manque, il y a du silence, et le silence, c'est une longue patience. La mélancolie va avec le temps. La solitude du souffrant aussi prend son temps. Sans doute, le soin est-il mélancolique quand il se nourrit d'incertitudes et de nombreux temps, c'est de l'expérience, l'expérience de différents temps, que la réalité réveille, que quand on revient au présent, on revit l'expérience des autres temps, du passé, peut-être de l'avenir. L'incertitude met ça à jour aussi. En médecine, l'incertitude n'est pas vraiment au goût du jour. Comment éviter que la relation soignante soit confisquée par l'intervention du soin ? Quel écart, quelle tension anime le soin entre deux personnes et plusieurs entre elles distanciées par leurs compétences spécifiques au-delà de la singulière, et je souligne singulière, relation du patient et du soignant ? Le faire agit, il ne garde pas de distance. Le bien faire sollicite des normes et des temps à respecter, des agendas, des conditions, des projets, voire des projections des uns avec les autres, sans indépendance, parfois même de la morale. Cependant, le soin est un moment qui trouble et de troubles qui désorganisent le patient et aussi le soignant. Ce n'est jamais du pareil au même. Et cela génère des énergies nouvelles, des constructions, des vies différentes et du désir. Le soin est un moment où le corps est vacant, où la personne se débrouille avec le démantèlement de son corps, parfois de sa vie, parfois de son âme. La science lui apporte des savoirs, des techniques, des espoirs, des agir efficaces, mais toujours la mort et l'ombre du soin. Et jusqu'où la foi en ce savoir est-elle légitime ? Jusqu'où le corps accepte-t-il de s'adapter aux savoirs médicaux si sûrs, parce que prouvés, testés, comptabilisés, répertoriés ? Autant quand le psychisme est touché. Aussi, parler de la maladie suppose parler avec le malade, avec le soignant et les soignants entre eux. Ça, c'est autre chose. Parler prend du temps. Accéder au monde de l'autre prend du temps, vous l'avez souligné toutes les deux. La santé, la maladie sont l'histoire de la personne et aussi soigner ne va pas sans susciter la narration. Le récit est ce temps particulier qui fait vivre la relation soignante et suscite le soin. Donc là, vous voyez que je quitte la causalité pour aller vers la guérison. Ça, par contre, le travail, l'éducation, l'appropriation de la santé par la personne se fait à partir du récit, de la parole, et le soin se crée à ce moment-là. C'est une solitude partagée, celle du patient et de sa souffrance, et celle du soignant qui se doit d'accompagner. Pour le soignant, on ne peut pas se mettre à la place du patient, sous peine de se faire beaucoup de mal, mais aussi de ne plus être soignant. Mais tout discours de l'extérieur qui affirme la compassion est trompeur, car il inhibe le temps de la compréhension de la souffrance. Le temps du lien, récit, écoute, est un long temps ou pas. La maladie est courte ou longue, légère ou grave. Et si les sciences peuvent cadrer le temps de la guérison, qui sait comment le patient vit le temps de ce qu'il vit dans son corps et ou dans son psychisme. Quel soignant ose dire et comprendre le lien vécu avec ce patient, lien qui peut perdurer dans sa propre solitude de soignant. Vous voyez que je replace le soignant vraiment directement dans la relation de soin. Le soin se nourrit d'étonnement, de vacances de l'esprit et de savoir-faire, car l'autre est toujours un être émergent en devenir dans le soin. La vacance d'esprit n'est jamais vide, le vide n'existe pas. Mais le silence, c'est comme un vent du désert qui fait vivre les paysages. Et la mémoire est aussi mouvante, elle est aussi conservatrice. Bien qu'on dise actuellement que la mémoire nous rend fous, nous rend de dément, mais elle est toujours là, même chez les grands âgés. Le soin laisse place à l'improvisation au-delà de la science, avec la science, et ce n'est pas rien. Les décisions se rapprochent du désir et déterminent nos capacités à se projeter dans la pulsion de vie. Et ça, je souligne beaucoup. Ça, ce n'est pas enseigné, ni dans les facultés de médecine, ni dans les instituts de formation paramédicale. Si faire et bien faire sont indissociables de la science et du soin, c'est l'existence et l'essence de l'être qui prédominent et dominent nos volontés de projeter et d'organiser la vie. Le temps, alors, est indissociable de la vie, mais la vie est complexe, la personne est complexe, et le temps indicible. Alors, les troubles inhérents à la vie et au vivant empêchent que nous soyons sûrs de nos résultats dans l'agir. J'introduis alors de l'incertitude. Je fais un peu de clinique de l'incertitude, ça m'amuse beaucoup dans le soin. Osons-nous dire encore qu'on ne sait pas quoi faire devant un temps non rempli, sans projet, comme dans l'enfance lancinante et créative. Osons attendre l'autre, le soi. Tu l'as bien dit, Ingrid, avec les références aussi avec Heidegger. Car nous n'allons pas l'un sans l'autre, même dans le soin, et cela prend du temps, et parfois un temps, peut-être, celui de la rencontre. Et nous ne savons pas ce qu'est le soi. Nous ne savons pas toujours ce qui se passe, et c'est parce que nous ne savons pas dans l'instant que cela se passe. Là aussi, je fais référence aux travaux de Michael Balint qui nous ramène toujours à la relation soignante et à ce qui se passe à ce moment-là. Alors, dans l'incertitude, nous nous entourons de savoirs, d'expériences, d'êtres et d'objets dans lesquels nous nous investissons un temps incertain. Et nous conservons tout cela pour l'illusion d'un lien qui perdure et forcément à sens unique dans l'absence. Alors que nous cherchons-nous à maintenir, nous, soignants, à contrôler ainsi notre soi, notre lien à l'autre, la mémoire de l'histoire vécue, l'expérience du soin? Je me suis demandé si ce n'était pas l'amour, au sens large bien sûr, le rêve poétique, qui nourrissent ainsi cette tension à conserver même dans l'absence. Ça peut être aussi l'intuition. Quand dans le soin, le soignant perd son patient, et il a de multiples raisons de le perdre, de multiples aussi occasions. Il en conserve parfois le souvenir et les images et sensations captées dans le présent très longtemps après. Alors que l'amour est proscrit dans la relation soignante, c'est une vaste question. Jamais on parle d'amour dans l'enseignement de la médecine et du soin. La déraison, peut-être, ou de l'amour ou de la poésie, ou bien la foi en ce qui se passe, souligne l'intemporalité du lien. Alors nous pouvions envisager d'être hors du temps, non planifié, car jamais certain, toujours dans une mouvance ou multiple. Quand nous aimons un héros, nous n'aimons que ce qui nous attire. Et même dans les contes, les héros ont plusieurs facettes, plusieurs visages, que nous acceptons parce que nous les aimons ou les haïssons. Ça se ressemble parfois. L'amour permet de comprendre, de se comprendre, du moins de tendre à cela. C'est cette tension qui fait que le temps ne nous appartient pas et nous offre plusieurs paysages, plusieurs lieux, préservant ainsi l'autonomie de celui à qui nous portons soin. Quelque part, nous sommes un peu des migrants quand nous sommes vraiment dans le soin. D'où notre désarroi nécessaire à appréhender la vie, soi, les autres et le temps, qui finalement n'existe que par rapport à l'énergie de notre tension, de notre tension et volonté à vouloir comprendre. Là, je fais référence à la métapsychologie freudienne et à s'engager aussi dans la relation singulière du soin. Le temps, peut-être, n'est que le sens de l'implication de notre soi avec l'autre et son corps ou et âme à soigner. N'est-ce pas tout simplement la force de notre engagement? Qu'est-ce qui révèle le temps dans notre parcours du faire? N'est-ce pas la crise aussi qui fait que l'on prend conscience du temps? La crise, quand on est face à un malade, on est témoin de beaucoup de crises. Ça peut être un sujet de conversation au cours de la consultation. C'est un événement soudain dans la vie quotidienne des personnes. C'est un événement sournois ou violent. C'est un moment dans la vie de la personne qui est prévisible ou bien subi et incontrôlable. Cela a des conséquences. Cela demande aussi au témoin un comportement, une analyse de la création d'une aide possible pour un lendemain différent. C'est du soin. Mais comment en parler ? On ne sait pas toujours ce que c'est qu'une crise sociétale, économique, personnelle, amoureuse, physique, que ce soit les krachs financiers, les guerres, les idéologies, la grippe, la fameuse grippe. Cela traverse le monde et nos vies, même les plus ordinaires. Et les ordinaires, ce sont nous. Et en chacun de nous, nous avons traversé des crises avouées ou inavouées. C'est comme dans le monde fractal, dans un décor d'un monde en mouvement. C'est souvent le grain de sable qui fait bouger. Je souligne la chance de vivre ce mouvement sans lequel nous mourons. Une société figée, un être figé dans l'immobilisme meurt et se tait dans un silence pathologique. Nous devons sans cesse... Là, je fais une petite aparté. C'est quand je vois dans certains lieux où on exclut certaines personnes parce qu'ils sont âgés, je me dis qu'on est un petit peu criminel quand même, quelque part. Nous devons sans cesse nous rappeler que l'humanité s'est faite en marchant. Le décor actuel sociétal, sur fond de libéralisme à outrance, de guerre, de barbarie, de pauvreté, d'exclusion, de changement climatique, induit des déplacements de populations qui trouent les frontières de leur peur et de leur désir de survie. De tout temps, il y a eu des migrants. On peut être des migrants internationaux, mais on peut être des migrants dans nos propres vies. Des corps en mouvement, des vies qui sont traversées par le mouvement, qui vivent des fractures, volontaires ou non. Aussi, le désir de changer, de se mouvoir, d'avancer, de survivre à la crise est ancré souvent dans les limbes de nos vies, de notre filiation, de notre histoire. Encore une fois, je fais référence à Françoise Dolto, qui, donc, par rapport à son travail sur le désir de vie ou non des nourrissons. Et là, je me dis aussi que nous portons en nous des valises de désir, transmis de génération en génération, notre mémoire et notre inconscient empilant des linges bien pliés, des corps encore chauds de nos ancêtres. Qu'en faisons-nous ? Nos inconscients parfois laissent surgir nos désirs de façon inopinée. Et je me dis que des crises n'arrivent pas forcément sans histoire passée. Je le constate souvent en écoutant la vie des patients, en écoutant leurs crises, leurs pathologies, leurs symptômes. Je vais aussi citer Florence Cartier, qui est psychiatre et psychanalyste à Genève. Elle a créé la Société psychanalytique suisse. Elle a écrit un très bel... Elle a beaucoup travaillé d'abord avec les soignants, particulièrement les infirmières. Et elle a écrit un très bel article en 2016, dans la belle revue Santé mentale. Elle écrit... L'enjeu de la crise est de rétablir ou établir l'idée qu'il est possible de trouver du plaisir à vivre avec les autres, présents, absents ou disparus, en même temps que vivre avec soi-même. Ce n'est pas rien. La crise, alors, est une occasion donnée à la personne et à son entourage de transformer le fonctionnement psychique et de modifier ce qui le fait souffrir. Et les soignants ont toute raison et nécessité de porter l'accent sur le travail relationnel. La relation établie avec le patient est donc le moteur de la thérapeutique du soin, et non pas seulement la causalité. La psychanalyse postule et démontre que le symptôme a une valeur d'usage particulière à chacun, et qu'une fois dégagé de sa valeur de souffrance par le dire, il acquiert une valeur d'expérience analytique. Aussi, au regard de l'analyse, dans la relation de soins somatiques, il en est de même du dire du symptôme. Là, je vais faire une petite aparté sur la crise de l'hôpital, revenir vraiment à une réalité très proche sur un modèle de crise dont vous entendez parler partout, à la radio, dans la presse. La crise du monde médical. On entend que des postes sont supprimés et particulièrement des infirmières et des aides-soignantes polarisent les tensions de l'hôpital. Des dépressions, des arrêts de maladie répétés, des suicides se multiplient Je rappelle que l'été dernier, pas moins de 8 infirmières se sont suicidées sur leur lieu de travail. Des internes, des médecins se suicident encore régulièrement. L'hôpital perd des budgets et des postes. Mais bien plus que cela, il perd le corps du patient, il perd sa chair, il oublie aussi la personne. La technicisation croissante et le cloisonnement des compétences transforment le corps désensibilisé. Plus on soigne, plus le sujet souffrant disparaît, plus le corps est objectifié. Et les infirmiers et les aides-soignants sont les derniers maillons de la chaîne de productivité de la santé. Je fais exprès de dire ce terme, très lutte des classes. Les derniers humains qui tiennent la main à ceux qui quittent la vie sont des êtres à qui on ne tend pas la main et sur la tête de qui on économise des budgets. L'intersubjectivité n'est plus un facteur pris en compte dans l'organisation de la santé, ce qui est un comble. Le corps est soigné sans être touché, sans état d'âme, sans lien entre soignant et patient. Je te donne mon corps, tu me le rends, sans parole, sans lien. La violence et la maltraitance, pour employer un mot très à la mode, que je n'aime pas trop, mais ça simplifie, agit sur les soignants pour les considérer aussi comme des êtres mécaniques, interchangeables, dont on nie la volonté de porter soin. Un soignant à qui l'on empêche de développer sa volonté de porter soin est un être castré de sa pulsion de vie. Donc c'était une petite aparté de la réalité du quotidien. Je voudrais revenir sur la parole, sur le dire, sur l'importance du langage dans le temps, au travers du soin. Accepter le temps, c'est aussi se battre contre l'uniformité. C'est accepter la parole et le débat pour délibérer et non éliminer le faible dans un rapport de peur, de contrainte, de culpabilité. Combien de fois j'ai vu revenir des patients de consultation à l'hôpital après un diagnostic de maladie grave, parfois moins grave, mais plus particulièrement grave, transi de peur, transi de culpabilité et soumis à des contraintes dans leur propre vie. On en a parlé cet après-midi où quand on est malade, surtout gravement, il y a des doubles, voire des triples peines parce que cela touche la profession, cela touche la vie personnelle, la vie psychique et que tout d'un coup, une personne peut se retrouver dans sa vie face à de nombreux... À une dissociation de sa propre vie. À domicile, nous recevons ces patients, on entend, on n'a plus qu'à prendre du temps pour écouter et puis se dire comment on va faire pour prendre la suite. J'ai parlé de rencontres, j'ai parlé aussi de manque et c'est important ce manque dans la relation de soins. Puisque le soin, que ce soit à niveau psychiatrique, mental, psychique, somatique, se retrouve à un manque, le manque de sa propre vie, le manque de l'avant, le manque parfois du présent, puisque sa vie est démantelée. Et pour cela, j'ai fait référence aux travaux de Wilfred Bion, qui est psychiatre et qui a beaucoup travaillé sur le processus de pensée. Je fais aussi, bien sûr, étant de formation balintienne, aux travaux de Michael Balint dans le défaut fondamental. Et au regard des travaux de Bion, il dit que la pensée n'a pas de vide, mais elle est analogue à l'attente, comme l'attente innée du sein dans le nourrisson. La conception alors de la pensée est l'approche de la préconception et d'une réalisation à venir. Pour l'enfant, c'est une satisfaction avec le sein, une expérience émotionnelle de plaisir. La pensée, alors, je simplifie parce que ces travaux ont été importants, qu'on n'a pas beaucoup de temps, la pensée est l'union de la frustration et de la préconception. Pour Balin, ça s'appelle le défaut fondamental, qui provoque une expérience négative, l'absence du sein. Pour Balin, cette union provoque la créativité. Pour Bion, c'est la réalité. L'objet est perçu à partir du manque. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé du manque, parce que c'est important dans la relation, cette notion de manque. C'est le manque qui provoque le processus de pensée. Penser, donc, est douloureux s'il provoque une frustration. C'est donc aussi une prise de risque. Cette prise de risque, elle est partagée par le soignant, qui, lui, ne s'autorise pas à manquer, parce qu'il a, effectivement, comme on a dit, une batterie de savoir, de connaissances. Il s'accroche à quelque chose de sûr, des protocoles, des statistiques. Le patient, lui, est face au démantèlement de sa vie et donc à un manque qu'il doit découvrir et comprendre. C'est une grande prise de risque. On dit philosopher, c'est régler ses comptes avec la mort. Or, aborder le monde de la santé, c'est se poser aussi la question de sa mort possible. La douleur déchire les frontières de l'homme, le confond à l'effroi, dont la pensée de la mort, de sa propre mort. C'est pourquoi elle force tout homme à la métaphysique, ne serait-ce qu'à travers la question du pourquoi. Combien de fois on entend un patient dire « mais pourquoi moi ?» C'est le début. Quand il se dit ça, on se dit « peut-être qu'il est sauvé, peut-être qu'il va commencer à élaborer une réflexion, une pensée, quel qu'il soit, même le plus ordinaire. » Il convient toujours de soigner l'homme en tant qu'homme, dans sa singularité, dans sa complexité, car seul le patient sait ce qui lui est intolérable. Et il est le seul à vivre la crise qui le traverse, car la personne à qui on porte soin ne peut créer aucune compétence spécialisée de sa singularité intime et unique et de sa souffrance. Heureusement, il n'y a pas d'enseignement de la souffrance de l'autre. Ouf. Cette douleur est déterminante pour l'avenir. Soit on accepte le manque, soit non, avec des mécanismes de défense et les dérèglements que cela suppose. La capacité aussi à rêver est fondamentale. Ça, je le rappelle aussi pour les soignants, le rêve, l'intuition, l'amour, comme je disais tout à l'heure, au sens très large, est nécessaire. Et la bonne mère, bien sûr, nous ne sommes ni mère ni père dans la relation soignante, mais c'est bon à rappeler que la bonne mère, qui est capable de transformer les peurs de l'enfant en jeu, rend tolérable le manque et évite l'angoisse destructive. La mère donne du sens. Ne pas répondre à un patient, c'est aussi le laisser prendre du temps, mais c'est aussi, si on ne répond pas du tout, si on ne lui explique pas du tout, il reste dans la destruction et l'incompréhension. Aussi, dans la relation du soin, le patient se trouve face à la douleur, au manque, et dans une relation duelle médicale, il est demandeur d'une satisfaction. La confiance, alors, joue un rôle important dans la reconstruction du patient. En conclusion, pour aller un peu vite, je parle de médecine de la personne qui implique le soignant dans son interrogation intime, philosophique, scientifique sur le porter soin. Et donc j'insiste sur cette formule de porter soin, non prendre soin. Le temps n'est jamais un concept qui va seul. Il est ce qui se dilate entre la vie et la mort. Et en tant que soignante, je parle dans un temps particulier au cours d'une rencontre avec la personne malade. Mon langage peut être particulier, et si j'y insère de la poésie, c'est pour y aborder de l'indicible, de la liberté, la parole libre peut-être aussi de l'inconscient, si on sait ce que c'est. En tout cas, c'est ce qu'on appelle de l'humain et de sa complexité. Mais le corps que l'on me prête est extrait du temps de la réparation, peut-être de l'indifférence et du rejet, mais aussi du temps de la volonté de guérir. Le temps du soin traverse aussi ce qui est extrait de la vie normale et la vie anormale, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et la violence de ce qui se passe est à la hauteur de l'absence d'interrogation. En hébreu, Ingrid, tu me corrigeras si je dis une faute, violence et muet ont la même racine.
Je ne savais même pas.
Voilà. En tant que soignante, je vis la violence parce que j'entends et vois de la souffrance de l'autre chez le patient. et la maladie violente son âme et son corps. Ce sont des temps qui se heurtent. Balint dit « Le malade me fait mal là où je suis blessé. C'est là où j'accepte d'être atteint. Le temps est un manque et cela me fait souffrir. » Je finirai donc en disant que la science n'a pas besoin de compassion. La compassion n'a pas besoin de science. Mais l'homme a besoin des deux. Et le temps suspend son vol avec la volonté de comprendre, d'aimer, de rêver et peut-être de guérir. Quant au concept même de médecine de la personne, il est lié aussi à mon ignorance à discourir sur un concept qui dépend de la vie des autres et aussi de la mienne. Je voudrais juste vous dire une citation de Héry de Luca dans Arc-en-ciel, parce que je trouve qu'elle illustre bien ce qu'on a dit et fait un lien entre nous trois. Il écrit dans Arc-en-ciel, « Le plus souvent, notre meilleur côté ne dépend pas de nous. Il est confié à l'initiative d'un inconnu qui vient réveiller le hasard. » Voilà ce qu'il écrit. Pour moi, c'est important parce que je souhaite être une soignante et je voudrais bien être de temps en temps d'être cet inconnu qui réveille le hasard chez l'autre. Si j'arrive à ça, je serai contente. Voilà, je vous remercie.
Donc voilà, je pense qu'il y a largement matière à réflexion. Voilà, c'était très très riche en informations, c'était complémentaire et de vous avoir toutes les trois à la même table, comme ça c'était intéressant de voir les discours, comment vous pouviez vous répondre. Donc la parole est à la salle, donc exprimez-vous simplement, je pense que les personnes en tribune pourront vous répondre également. Donc voilà, sur le soin, sur des expériences, sur des choses que vous voulez peut-être éclaircir, parce qu'on était assez vite, avec qu'il y avait beaucoup de choses de dites. Voilà.
Je vais arrêter le froid. Merci. Mais deux choses. J'ai beaucoup adoré les mains. Et j'ai de temps en temps, je fais partie des aides-soignantes. Et je dis souvent, nous sommes les petites mains. De l'hôpital, je me faisais rattraper, parce que non, les mains, non, les petites mains, de l'hôpital, et c'est vrai que j'ai été très touchée par cette expression-là. Quant au prendre soin, je me suis souvent interrogée dans une réflexion en éthique autour du prendre soin, et qu'effectivement, ce qui m'est venu au fil des années, je me dis, le soin, moi, j'en ai une part. J'ai la part technique, j'ai une certaine compétence. Mais le patient lui-même et les proches ont une autre part. Et c'est celle-là que j'ai besoin de prendre, que le patient m'autorise à prendre ou pas. Et le soin que je fais ou que nous le créons ensemble. Et de ce côté, je trouve, même si sous certains angles, cette expression est drôle et qu'on a plutôt envie de dire nous portons soin ou il me rappelle que je ne suis pas l'initiative de cette relation et que j'en ai une part. Voilà. Alors peut-être que j'ai faux, hein, je sais pas.
C'est la rencontre, c'est la force de la rencontre qui ne se fait pas toujours d'ailleurs.
Oui, ça me paraît important de que tu l'as souligné. Hein.
En fait, j'avais une question. Est-ce que c'est l'hypermédicalisation de la société, est-ce qu'elle est liée aux usagers ou est-ce qu'elle est liée aux soignants? Et puis, il y a plusieurs. Avant que vous me répondiez, j'avais plusieurs remarques qui découlent de vos exposés. En fait, Brigitte, tu as dit le temps, on n'a pas le temps. Donc ça, c'est une notion importante pour les soignants. Vous avez fait référence, Ingrid, à la médecine vétérinaire Et puis, la dernière intervenante...
Je reconnais que ce n'était pas très gentil.
La précédente intervenante avait opposé sens clinique et logiciel. Alors, les logiciels, ils sont faits par des hommes, et les logiciels, ils sont de nature à évoluer. Et je pense que le sens clinique, c'est bien, par exemple, pour différencier le petit bobo, de se dire est-ce que c'est un petit bobo ou est-ce que c'est plus grave et il faut déclencher les examens. Mais je pense que maintenant, on tolère absolument pas l'échec médical. Et donc, il y a une médecine de style parapluie où on déclenche assez rapidement, il faut savoir déclencher très rapidement, des investigations qui peuvent être parfois lourdes. Donc, voilà, c'était quelques remarques. Voilà. Donc, est-ce que c'est l'usager que nous sommes qui est responsable de l'hypermédicalisation ou est-ce que c'est les soignants?
Moi, je voudrais dire une seule chose. Je trouve que ce mot d'usager n'est pas approprié.
Alors, vous utilisez quoi alors? Le patient, le malade? Parce que c'est...
Je veux bien qu'il y ait une sagesse de l'usage, mais ça devient un peu un... Enfin, les choses dont on parle deviennent un peu des ustensiles quand on se fait usager. Enfin, c'est un risque du moins. C'est pour ça que je pense que la question, elle est intéressante, mais il faudrait peut-être la poser différemment.
Aussi, est-ce que je peux te répondre en disant, est-ce qu'on cherche à obtenir la santé qu'on se procure ou qu'on mérite voilà, c'est une question, je réponds par une question à ta question.
Et moi aussi. Alors, il n'y a pas de raison que moi je ne réponde pas.
Alors, je vais répondre par comme un bon politique et je vais parler d'autre chose. Non, là où quand même par rapport à la médecine vétérinaire, par rapport à ce qu'il y avait il y a 50 ans, on n'imagine pas la façon dont on considère les malades. Les malades maintenant, on les écoute. On les associe même au processus de diagnostic. Il y a même des protocoles qui font que, par exemple, pour les cancers, il y a des consultations dédiées, des consultations d'annonce. Et tout ça, c'est très protocolé. Donc, quand même, le malade est quand même... Il n'est jamais suffisamment écouté. Mais il est quand même un peu plus écouté qu'il n'était autrefois. Et puis alors, petite remarque personnelle, parce que ce que tu as dit sur les suicides, ça m'a ramené beaucoup d'années en arrière. Et j'ai plein d'amis médecins qui se sont suicidés. Mais ça passait autrefois, on disait, oh, ben, il est un petit peu, il était fragile, il n'a pas supporté, etc. Et ça passait dans l'indifférence. Total, on ne remettait pas en question. Voilà. Donc, je pense qu'on est peut-être plus à l'écoute des souffrances des soignants qu'on l'a été par ailleurs. Et les histoires d'alcoolisation et autres, ça masquait peut-être des... Ou c'était le moyen de soigner les gens. Et je ne parle pas du tabac.
Il y a eu une étude à la fac de Bobigny sur les étudiants en médecine, en particulier en quatrième année, ceux qui avaient suivi un cursus de formation à la relation soignante continuaient et se sentaient à peu près bien. Et ceux qui n'en avaient pas fait, c'était ceux qui démissionnaient en quatrième année, enfin qui quittaient à ce moment-là. Donc c'était assez intéressant.
Oui,
Oui, alors juste pour répondre à la question de, sur l'hypermédicalisation, effectivement, enfin, je pense que c'est une affaire de rencontre entre une attente, c'est ce que j'ai essayé de dire rapidement vers la fin, une attente démesurée finalement non, de l'usager ou des citoyens que nous sommes à l'égard de la médecine, à l'égard de la psychiatrie, puisque c'est de ça dont je parle, dont je parlais essentiellement. Et donc forcément, c'est, si on part de marché, voilà, c'est parce qu'il y a une demande que l'offre aussi, elle peut s'établir. Donc pour moi, effectivement, c'est absolument indissociable, hein, la demande de l'usager, de la réponse en quelque sorte scientifique, d'autant plus facile dans le domaine de la psychiatrie, que les entités diagnostiques et que la définition même de maladie mentale reste quand même très vague, hein, puisqu'on n'est pas évidemment dans la... Malgré les beaux discours, on a très peu de preuves des choses. Donc je pense que les illusions sont des deux côtés, mais qu'elles se sont construites effectivement depuis les débuts de la psychiatrie, du côté du patient et du côté effectivement du psychiatre, en tout cas chercheur, hein. Enfin, je tiens à souligner cet aspect-là. Or, en ce moment, évidemment, il y a une conjonction fatidique par rapport à cette rencontre avec effectivement les milliards d'euros, de dollars qu'engrange l'industrie pharmaceutique et évidemment et aussi dans le domaine des psychotropes. Donc moi, pour moi, c'est indissociable, enfin, hein, le fait qu'il y ait une demande qui favorise l'offre et vice-versa, en fait. Donc c'est pour ça que...
C'est une offre qui crée une demande aussi.
Oui, mais oui, bien sûr, et ça, c'est la surenchère, effectivement, bien sûr, mais c'est parce qu'on voulant aussi, hein, de ce rêve-là, qu'on consomme autant de psychotropes, parfois pour des raisons qui ne sont pas forcément très, très heureuses. Hein. C'est-à-dire qu'on pourrait, dans plein de cas, s'en passer. Donc, effectivement, mais moi, je ne sais pas, j'ai du mal à dire que c'est la faute à l'offre, uniquement. Enfin, hein. Voilà, bon, c'est ma position.
Je suis médecin, je voulais apporter un petit témoignage à votre moulin. Dans le sens où il peut m'arriver, par exemple, de mettre en arrêt de travail quelqu'un qui a une souffrance psychique et d'être obligé de justifier ça auprès de l'assurance maladie. Alors, comme je ne soigne pas avec des psychotropes, je me retrouve dans la position très particulière d'être obligé de montrer en fait les symptômes de mes patients en reprenant si possible les termes du DCM-5, parce que ça justifie ce que je fais, et de prescrire un psychotrope que peut-être mon patient ne prendra pas, mais parce que comme ça on dira oui, il mérite son arrêt de travail parce qu'il a une véritable souffrance psychique. Voilà. Donc on arrive à des paradoxes complètement fous. Qui gêne énormément la pratique du soin en médecine.
Ça me fait un peu bronzer, je suis médecin aussi. Je veux dire, le remède c'est la relation, en fait. Il n'y a pas besoin de parler de psychotropes. Enfin, ça me paraît invraisemblable qu'on soit obligé de dire je mets un IRS, donc il est bien malade. Non, non, il est bien malade et je le soigne. C'est... Enfin, ça c'est bon. Bah, on met un diagnostic, on n'a pas besoin de mettre de traitement. Le traitement, c'est la relation.
Qui veut discuter ?
C'est pas le psychotrope.
C'est pas grave. Disons que je comprends ce que voulait dire madame tout à l'heure, dans le sens où quand on demande... quand des patients passent, enfin, on demande à des patients une expertise médicale, par exemple, parce que l'employeur n'est pas du tout convaincu de ce qu'il peut avoir. Quand on entend les résultats des médecins experts, effectivement, si c'est pas justifié par un traitement ad hoc, ben, le patient il est considéré comme ne pas être malade. Donc c'est pour ça que effectivement. On peut arriver à des choses qui sont un peu extravagantes et nous connaissons ça malheureusement. où des patients se sont vus ne pas être acceptés en tant que dans leur maladie psychique.
Enfin, il est quand même connu que les médecins français prescrivent, dont je suis, hein, prescrivent beaucoup de d'antidépresseurs pour des dépressions réactionnelles. Alors que la dépression réactionnelle, c'est il faut du temps et de la relation.
Quant au deuil, enfin, il y a eu un travail avec la HAS où, sur le deuil, enfin, après suicide. Voilà. Et en fait, il a été travaillé qu'il fallait absolument pas donner de traitement, quoi. Et que,
voilà, enfin, le traitement, c'était... c'est le lien, la relation, c'est le remède médecin, le remède soignant de Balint.
Excusez-moi, mais le problème, c'est que je pense que la relation n'est pas quantifiée. On ne peut pas... Il n'y a rien qui quantifie cette relation. Nous, on le voit bien dans le soin, hein, en tant que soignant. Tout ce qui est relationnel n'est pas quantifiable. On n'y arrive pas.
Ce patient, je lui donne, il est en deuil. Je ne lui donne pas de médicaments psychotropes, mais je le vois toutes les semaines. Je quantifie mes consultations. Et mon expert, je vais lui dire, écoutez, je suis obligé de le voir toutes les semaines, il n'est pas bien, il élabore, laissez-moi le temps d'élaborer avec lui. Enfin, je veux dire, il faut quand même se les accrocher un peu. Là.
Ah, mais on est entièrement d'accord. Mais on est sur la même, longueur d'onde. Hein, Oui, mais je ne suis même pas sûre que les médecins experts tiennent compte de cela. C'est ça qui nous inquiète. Alors je crois que vous allez avoir beaucoup de travail.
Moi j'ai juste une réflexion, j'entends parler de mon patient, de mes patients, mes patientes, et j'ai jamais entendu parler de mon usager par exemple. C'est-à-dire on va pas s'approprier l'usager, hein. Donc je pense que c'est lourd en signification.
Développer, c'est intéressant.
Enfin, qu'est-ce que... Pardon ?
J'ai dit développer, enfin, parce que c'est intéressant.
Je pense que l'usager, on n'en veut pas, hein, quand on est soignant. Enfin, c'est, on n'arrive pas à imaginer qu'on puisse avoir un patient qu'on puisse le considérer comme un usager. Je pense que ce terme-là n'est pas du tout adapté. Mmh. Et c'est le terme qu'on utilise le plus, enfin qu'on entend le plus dans la bouche de nos directions, par exemple. Enfin, c'est forcément, il y a deux mondes qui vont s'opposer. Et, on pourra pas s'entendre, c'est sûr.
C'est l'administration et les décideurs qui parlent comme ça et qui organisent comme ça.
Alors, c'est le monde de la gestion.
Ça,
c'est autre chose.
Désolée, parce que les habitudes habituellement, donc c'est 22h30, il y a une sonnerie qui va arriver, non, je rigole. Donc, s'il n'y a pas de dernière question, merci encore à nos trois intervenantes, puis je crois Brigitte peut-être...
Je voudrais juste faire une toute petite conclusion, je me disais que la médecine est très intelligente, le corps aussi il est intelligent, mais il n'y a qu'un truc, c'est que la médecine a rendu la personne obsolète, et ça, voilà, c'est une petite réflexion que je me fais maintenant.
Voilà. Quelques mots, juste que j'étais modeste. Donc, vient de paraître aujourd'hui, je crois, le livre de Brigitte Grèce, La temporalité dans le soin. Donc, vous pouvez le feuilleter et le découvrir. Il y a quelques exemplaires qui sont donc à votre disposition à la sortie de la salle. Voilà, et en vente.
Merci.